Les rendez-vous du petit pigeon voyageur sur RCN, Jean-Marc Armand.
Bonjour, notre invité du jour, Yann Prouillet, historien, éditeur, établissement Edisto à Senones. Bonjour Yann.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à toutes et à tous.
Quel plaisir de te revoir.
Plaisir RCN. Partagé.
Dis-moi, le thème de notre entretien tient sur la femme. On est à 5 jours de la Journée internationale des droits des femmes et je pense qu'on peut encore en parler parce que c'est une grande conquête à faire encore.
Plus que jamais, étant donné la politique internationale et nationale, c'est en effet un débat toujours d'actualité.
Alors tu sais que le petit pigeon voyageur est né le 28 février, après 4 jours d'images sur l'invasion, la tentative d'invasion de l'Ukraine. Alors l'historien que tu es, peut-il développer par rapport à ce conflit que nous vivons maintenant depuis un an, la position, la place de la femme dans les guerres, la place de la femme spécifiquement en Ukraine?
Alors en effet, ce conflit a déjà un an. Il vient d'abord en avant-propos bien confirmer que quand on commence une guerre, c'est un peu comme quand on commence une grève, on ne sait jamais quand tout cela va s'arrêter. La preuve, c'est qu'on en est pour un an, comme d'habitude. La guerre devait être courte, la guerre devait être rapide, la guerre devait être victorieuse, et un an après, on y est toujours. Et même plus qu'un an après, on y est toujours, 10 ans après, on y est toujours en Ukraine, puisque la guerre n'a pas commencé il y a un an en Ukraine, elle a commencé il y a 10 ans, en 2014, et il se trouve qu'elle s'est répandue, entre guillemets, elle s'est intensifiée, c'est très exactement ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est passé d'une guerre territoriale, régionale, à une guerre nationale pour l'Ukraine et à une guerre universelle par rapport à sa caractéristique première de guerre, qui est celle de s'en prendre autant aux militaires qu'aux civils. Et dans les civils, si on met un E et un S, eh bien les femmes sont également concernées et en première ligne, comme d'habitude.
Alors tu as l'habitude, tu as une spécialité quand même dans ton parcours d'historien, c'est la guerre de 14-18, et je crois que tu as des similitudes entre ce qui s'est passé en 14-18 et ce qui se passe actuellement en Ukraine.
Les similitudes, il suffit d'allumer sa télévision pour immédiatement être plongé dans cette sororité qu'il y a entre la guerre en Ukraine aujourd'hui et la guerre de 14 pour des raisons très très diverses. La première image, je ne sais pas si tu te souviens Jean-Marc, mais la première image aux premières heures du conflit et même un tout petit peu avant, c'était des images de tranchées, que l'on voit toujours d'ailleurs un an après.
Exact.
Or, cette guerre en Ukraine, aujourd'hui, si on écoute les comptes rendus médiatiques et militaires, cette guerre est majoritairement comparée à la Première Guerre mondiale. Elle nous ramène 100 ans en arrière, et pas seulement sur son développement territorial et son développement militaire, mais aussi sur son développement d'atteinte aux populations, d'atteinte aux civils, y compris pour des raisons purement, gratuites, qui est celle de débombardement des villes. On est loin aujourd'hui de Kiev dans la partie militaire des combats du Donbass. Par contre, les bombes tombent à Kiev, et elles sont encore tombées cette nuit, et donc cette guerre n'est pas une guerre territoriale pure, même s'il y a un grand volet territorial. Cette guerre, elle est universelle dans la terrorisation des populations, et dans ces populations, il y a les femmes et il y a les enfants. Or, la place de la femme redevient centrale dans tout conflit, et très immédiatement, femmes en soutien de la guerre, en soutien du moral, en soutien du fait que les civils doivent tenir, mais avec cette caractéristique un tout petit peu plus supplémentaire pour cette guerre en Ukraine, que la femme est également au front dans diverses fonctions et pas seulement en tant que cantinière, elle est impliquée également. Et de fait, la femme est parfaitement centrale à l'intérieur de ce conflit, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel aussi, parce qu'il y a également une guerre culturelle, et sur le plan militaire également. C'est une caractéristique qui la différencie un tout petit peu de la guerre de 14, mais finalement pas tant que ça, parce que à partir du moment où on universalise un conflit sur le plan du territoire, c'est-à-dire sur le plan de deux États, et pas sur le plan simplement de région, parce que des guerres régionales, il y en a partout sur la surface de la Terre, eh bien, là, pour le coup, l'universalisation de la guerre concerne également les femmes et leur place dans cette société militaire.
Alors, tu connais l'objet social de l'association Petit Pigeon Voyageur, c'est d'apporter un soutien moral et psychologique au peuple en détresse. Je crois que là, on a affaire vraiment, au niveau de l'Ukraine, à un peuple qui est en détresse.
C'est un peuple en détresse, mais c'est un peuple courageux et admirable par rapport justement à la façon dont on tient une guerre. Parce qu'en fait, la guerre, c'est un phénomène, je ne dirais pas seulement purement masculin, c'est un phénomène jusqu'au boutiste. Et à partir du moment où on déclenche ce type de phénomène, qui est une des plaies mondiales, eh bien, il faut un peuple qui soit capable de soutenir. Rappelez-vous les caricatures quand la guerre de 14 s'est éternisée, et on a une caricature très très célèbre qui disait « pourvu qu'ils tiennent, qui ça ?» Les civils, eh bien, en effet, les femmes, les civils sont majeurs dans la perduration de la résistance à ce type de conflit, parce que elles sont la part majeure de l'effort national pour continuer à l'Est, là pour le coup, à défendre les frontières. Mais pour défendre les frontières, il faut que derrière, à l'Ouest, eh bien, les choses s'organisent et soient efficaces.
Alors je pensais quelque chose en t'écoutant, c'est le côté européen de la femme. Où en est la femme au niveau des structures de défense de ses droits, puisque l'ONU ne dit pas Journée internationale des droits de la femme comme on le dit en France, mais l'ONU dit Journée internationale des femmes. Donc au niveau européen, comment situes-tu les résistances, les progrès que peuvent faire les femmes au niveau de leurs droits?
Cette guerre est profondément injuste. Il n'y a pas de guerre juste, hein. Mais cette guerre est profondément injuste parce que, au départ, il y avait une certaine propagande qui permettait d'essayer de la justifier sans, bien entendu, pouvoir être justificative. Mais il se trouve que ce qui ressort aujourd'hui, par sa durée et par ses moyens de combattre universels, c'est l'injustice de ce droit. Et la justice, c'est justement quelque chose qui vient nous ramener dans nos sociétés européennes, dans nos sociétés occidentales, qui est celle justement de la lutte contre les oppressions et de la lutte contre l'injustice du droit. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, où immédiatement, dans la guerre de 14, les différents États belligérants se sont érigés en garant du droit international, du droit universel. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui, parce que cette guerre heurte le droit, la morale, heurte l'humanité, et de ce fait, pour ce coup-là, l'Europe s'est toujours portée comme porteur du drapeau de cette humanité et de cette conservation des valeurs humaines et du droit. Et il n'y a absolument rien de changé par rapport à la guerre de 14. On est dans le discours politique mondial, mais on est dans une réalité aussi qui est celle que cette guerre a polarisé l'humanité. On est pour le droit et pour la justice, et donc contre ce qui se passe en Ukraine et ce que l'Ukraine subit, ou il se trouve qu'on polarise, et avec certains pays qui, eux-mêmes, jusqu'aux boutistes, ne trouvent pas ça tout à fait anormal et ne voient pas spécifiquement le problème lorsqu'un État s'attaque à un autre sans justification.
Alors je reviens à ta première expression de la première image de ce On pouvait voir, quand on allumait son poste de télévision, du 24 février au 28, où le petit pigeon a cassé sa coquille, le changement par rapport à 14-18 et maintenant, c'est quand même les médias. Et on a, à mon avis, tu vas me corriger si je me trompe, une véritable guerre au niveau de la médiatisation, de la propagande, d'un côté comme de l'autre, au point qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fake? Voilà, je ne sais pas ce que tu penses de cette...
Alors là aussi, très très paradoxalement, ce qui a changé, ce sont les moyens et l'immédiateté de l'information, de l'image. Mais nous avions également ces caractéristiques pendant la guerre de 14. La guerre de 14, c'est la vraie première grande guerre médiatique, y compris par l'image. C'est l'avènement aussi de l'image animée. C'est la première guerre où on a un avènement de l'image animée, pas encore en couleur, ça on attendra la Deuxième Guerre mondiale pour avoir ces images, mais on a une guerre à la fois par l'introduction massive des appareils photo dans la tranchée à partir de 1915, et on aura des millions et des millions d'images qui vont être prises à cette époque. On a également, bien entendu, l'usage de la propagande. On se rappelle qu'en 1914, on a eu des images absolument terribles des premiers combats de la guerre de 14, sauf qu'en les analysant, on s'apercevait que ces images avaient plusieurs années et on venait les recycler par rapport à cette guerre de 14. Et on a eu très majoritairement des comptes rendus de reporters de presse. Le soldat lui-même s'est mué en reporter de presse. Je pense notamment à Loïs Roux, par exemple, qui a photographié et documenté sa propre guerre. Et donc, cette guerre a été une première guerre médiatique. Simplement, c'est cette immédiateté qui est un tout petit peu à discuter aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de caractéristiques de la guerre en Ukraine qui sont à prendre dans la Première Guerre mondiale.
Et les réseaux sociaux dans tout ça ?
Les réseaux sociaux, il faut s'en méfier, bien entendu. Ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte parce que il n'y a rien de plus manipulable qu'une image. Je l'ai dit un tout petit peu par rapport à la guerre de 14, on a déjà majoritairement manipulé les images dès le départ dans le conflit, dans le premier conflit mondial. Donc ces images sont à prendre avec beaucoup de précautions. Il faut toujours vérifier en effet la source, ça c'est l'historien qui parle. Parce que une image, vous lui faites dire tout et son contraire, et il se trouve qu'on a également ces cas. On les a pas d'ailleurs seulement en Ukraine, on les a un tout petit peu partout. On parle de Wagner comme unité de combat. Je rappelle quand même que Wagner a été impliqué dans une manipulation d'images en Afrique, au Mali, précédant et accompagnant le départ des Français du Mali. Donc on a ces images qui peuvent être tout à fait tendancieuses. Il faut juste faire attention. Mais là, pour le coup, on peut faire confiance quand même aux médias actuels parce que je pense que globalement, elles ont bien compris que la source et l'origine de la source étaient un fait majeur pour transfuser l'image au public ou pour bloquer l'image au public parce qu'on a énormément de lobbies dans tous les sens.
On a parlé très rapidement, dès le début de cette guerre, des crimes de guerre. Qu'est-ce que tu peux nous dire au travers de cette...
Le crime de guerre est une essence naturelle de la guerre. La guerre, ce sont des moments de violence et d'hyper-violence. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces terminologies, mais il y a des moments de violence beaucoup plus importants en fonction des guerres. Par exemple, pour le combattant de la guerre de 14, les historiens ont plus ou moins calculé que les moments où il combattait réellement l'ennemi au risque de sa propre vie immédiate, ça représentait seulement 5% de la place du combattant dans les tranchées. Je ne sais pas du tout quels sont les chiffres pour la guerre en Ukraine, mais, et en tout cas surtout pas du côté de Kharkovsk en ce moment, mais il se trouve que l'hyperviolence de la guerre de 14 est représentée justement par ces crimes de guerre. C'est inhérent à la guerre. Il se trouve que justement... ce qu'on a également immédiatement tout de suite, et on l'a eu aussi avec le rapport Marin en 1914, c'est que derrière, les observateurs internationaux, y compris français, eh bien, avant même, je dirais, que tout cela s'arrête, sont en train de générer des actes de constatation de violation du droit des gens, comme il y en a eu en 1914, et que cette guerre, on n'a pas fini d'en parler, y compris dans les rapports humains.
On va faire une petite pause musicale avec l'hymne ukrainien, chanté par une jeune fille de 7 ans.
Les rendez-vous du petit pigeon voyageur sur RCN, Jean-Marc Armand.
Je suis donc avec Yann Prouillet, historien, éditeur, édisto. Pour la seconde partie de notre émission, Yann, je te propose que nous parlions de l'Iran. L'Iran qui sensibilise fortement depuis le mois de septembre 2022 l'opinion publique internationale.
Oui, on était tout à l'heure en Ukraine, en effet, sur un conflit d'État à État. En Iran, c'est pas tout à fait la même donnée, mais comme je le disais tout à l'heure, les conflits n'ont pas besoin d'être d'échelle étatique à l'échelle de l'Europe pour être en effet, pour concerner la violence mondiale et notamment les atteintes aux femmes. Comme tu as pu le voir, il y a toujours des catalyseurs dans les différentes guerres, des catalyseurs qu'on érige en représentativité. Là, il se trouve que c'est une atteinte aux femmes qui révèle au monde ce conflit interne et c'est assez représentatif et c'est tout à fait légitime que ce conflit bouleverse le monde parce que il démarre en effet sur une atteinte aux femmes et de ce fait ça a transcendé ça a fait tache d'huile et transcendé le basculement qu'il y a entre un acte isolé, même si parfois représentatif en fonction des régimes politiques ou religieux, et ça l'a transcendé comme étant un événement d'ordre régional, puis en représentativité d'ordre mondial. Et c'est pas étonnant que cet acte à la fois choque le monde et génère en interne une telle volonté de justice.
Contrairement à ce qu'on pouvait voir, ce qu'on voit au niveau de l'Ukraine par les correspondants de tous les pays, hein, les journalistes qui sont sur place en Ukraine, c'est extrêmement difficile d'avoir une vision de ce qui se passe en Iran. L'Internet est coupé. La censure se joue sur tous les points, les courriers, le téléphone, les communications. Et donc, on est un peu dans l'inconnu, là. On ne sait pas ce qui se passe. Quelquefois, on voit une répression terrible, mais on ne sait pas vraiment comment ça évolue.
C'est le propre des pays fermés. Et c'est le propre des pays qui, tout en étant fermés pour le monde se ferme également à l'intérieur et verrouille l'information. Le régime iranien n'est pas le parangon de cette méthode. Hein. D'autres régimes bien connus, notamment en Asie, sont aussi tout à fait conscients que l'image est un vecteur particulièrement puissant et que donc cette image-là doit être combattue parce qu'elle est beaucoup plus vecteur d'information en elle-même qu'une longue tribune dans un média national type Le Monde ou Le Figaro. Donc on verrouille l'information qui peut partir de l'intérieur vers l'extérieur et si on ne peut pas verrouiller cette information-là, on la combat par de la contre-information, c'est ce qui se passe et on revient au discours sur la propagande qu'on a eue tout à l'heure, propagande qui peut se faire dans les deux sens, mais qui, là pour le coup de l'Iran, a du mal à masquer les atteintes aux populations, les atteintes aux femmes qui elles-mêmes sont héroïques dans cette répression et dans cette envie parfaitement légitime de liberté.
Alors, je pense qu'il y a peut-être un moyen, peut-être une solution pour faire avancer une espèce de pacification interne, si je peux me permettre, au travers de l'international, par la culture. La place de la culture est quand même fondamentale, chez la femme, bien sûr, autant que chez l'homme, et peut-être d'ailleurs plus encore chez la femme que chez l'homme.
La culture est l'acte majeur et fondateur de l'ouverture vers l'autre, de l'ouverture culturelle, justement, et de cette ouverture qui nous a concernés, nous, la France, il y a quelques siècles, avec la fonction des Lumières, avec l'œuvre des Lumières. L'œuvre des Lumières était une ouverture culturelle. On sait aujourd'hui quelle base et quel apport elle a pour la société française encore aujourd'hui, près de 300 ans après son avènement. Donc, la culture est majeure. La culture passe aussi énormément par la femme et par ce bain culturel qu'elle peut apporter dans tous les domaines de l'art, de la culture et de la représentation. Et donc, c'est aussi la marque d'un État que de lutter contre la culture et l'ouverture, parce que, justement, cette culture est un vecteur d'apprentissage, c'est un vecteur de compréhension du monde et un vecteur d'échange. Et ces pays fermés luttent contre, justement, ces vecteurs d'échange.
C'est d'ailleurs, à mon avis, la réflexion qu'a pu avoir le conseil d'administration du Pipigeon Voyageur en organisant le 6 avril à la salle Rographe à Nancy un concert récital qui sera, c'est un spectacle qui tourne dans le monde entier avec une pianiste franco-iranienne qui s'appelle Leila Ramezan et accompagnée d'une récitante écrivaine, maîtresse de conférences et chercheuse, Leili Anvar, qui d'ailleurs sera pendant trois jours après ce 6 avril sur Nancy. Et donc j'invite les auditeurs d'RCN de noter dès maintenant cette date du jeudi 6 avril à 20h, salle Rographe. Je pense que là nous aurons vraiment l'expression de la culture à travers du piano, à travers les poèmes, c'est la découverte des poétesses iranienne. Le poème est très important dans Le Petit Pigeon Voyageur. Ça fait plus d'une centaine de messages que nous avons envoyés par le web, en Ukraine, en France, sur les chemins de l'exil des Ukrainiens. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'Iran. On ne peut pas envoyer de messages là-bas.
Non, mais le fait de médiatiser, de soutenir ces initiatives est un message qui de toute façon transfuse parce que chaque pays n'est pas entièrement fermé et verrouillé. On peut communiquer quand même, on communique, on trouve toujours un moyen de communiquer et communiquer des actions de soutien, communiquer des actions de reconnaissance et d'accompagnement des artistes et de ces femmes qui continuent à lutter à l'extérieur pour aider ceux qui luttent à l'intérieur, c'est majeur et c'est parfaitement bien de le faire.
Tu peux nous dire deux mots des pigeons voyageurs pendant la guerre ?
Oui, assez rapidement. Quand on a une guerre qui est globalement relativement totale et une guerre qui se trouve être utiliser tous les moyens pour détruire l'autre, il se trouvait que, en effet, on a utilisé les animaux pour communiquer les messages. On parle bien entendu au dernier pigeon du commandant Reynal au Fort de Vaux qui était tapis sous les bombes. Et,
il s'appelait Vaillant, je crois.
Oui, Vaillant. On a une héroïsation de l'animal parce que l'héroïsation de l'animal permettait de valoriser également l'homme, mais on a eu en effet beaucoup de soutien de la part de quelque chose qui s'est un tout petit peu perdu aujourd'hui, mais qui était une grande tradition militaire et civile, notamment dans le Nord, qui est celle de la colombophilie militaire. Et il se trouve que bien, on a utilisé les pigeons, mais on n'a pas utilisé qu'eux, on a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser comme vecteur. Il faut savoir même qu'on avait des petits pigeons, non pas voyageurs, mais photographes, parce qu'on a même essayé de leur mettre des appareils photo pour survoler les lignes ennemies. Bref, l'utilisation de l'animal est universelle.
C'était finalement les précurseurs des drones.
Oui, on revient à la guerre en Ukraine. Il se trouve que la guerre en Ukraine a exactement les mêmes caractéristiques que la Première Guerre mondiale. Seuls les moyens changent. Et là, pour ce coup, on a remplacé un peu les pigeons voyageurs par les drones et les crapouillots par des drones armés de grenades. Enfin bref, on est encore dans une caractéristique de la guerre de tranchées.
Alors, le petit pigeon voyageur, enfin le pigeon en général d'ailleurs, est friand de graines de tournesol. Et l'association Petit Pigeon Voyageur a mis au point des sachets de graines qu'il a intitulé les graines de la paix, qui contiennent chaque sachet 7 graines. Et il organise un concours, donc on peut se procurer par mail à l'adresse petitpigeonvoyageur01@gmail.com, passer commande de sachets de graines et est assorti à sa plantation et au fleurissement de la graine, qui est un symbole de paix, symbole de pacification, le petit pigeon organise un concours photo dans lequel les plus belles photos de graines de tournesol en fleurs sera primée. Je voulais le signaler aux spectateurs, pour ceux qui veulent faire un petit peu de culture sur leur balcon ou dans leur jardin et faire de la photo.
Ben, c'est une excellente initiative.
Ah, je pense que ça plaira. Pour l'instant, c'est très apprécié. On a eu déjà pas mal de demandes. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 27 mars. Notre invité sera un avocat honoraire qui nous parlera du sujet qui n'a pas encore été totalement arrêté. Vous étiez dans l'émission Les invités du Petit Pigeon Voyageur avec Jean-Marc Armand et avec son invité du jour, Yann Prouillet. Merci Yann.
Merci Jean-Marc. Merci à tous.